France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il a connu les sommets avec son premier Seul en scène et les heures sombres de la dépression. Son premier livre a été un best-seller. Il revient avec, entre les deux, son deuxième spectacle. Panayotis Pascos sera mon invité à partir de 13h. Et pour commencer, honneur à la critique, aujourd'hui on parle des sorties cinéma de la semaine avec deux films. Le premier long métrage de Scarlett Johansson, Eleanor's Great, et le documentaire Pompeii Sotto le Nuvole de Gianfranco Rosi. Vous écoutez les midis de culture, on est fait pour se comprendre. Et ceux qui ont vu ce qu'ils devaient voir, les voici. Sandra Onana, journaliste et critique à Libération, chef adjointe du service culture. Bonjour.
Bonjour.
Thierry Chaise, rédacteur en chef du magazine Première.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Allez, on commence avec Eleanor's Great. C'est le premier long métrage de l'actrice Scarlett Johansson. Prénom Eleanor, nom Morgenstern, âge 94 ans. Une vieille dame qui n'a pas froid aux yeux, ni la langue dans sa poche. À la mort de son ami et colocataire, elle revient vivre chez sa fille à New York. Et elle se retrouve par hasard dans un groupe de paroles de survivants de la Shoah. Elle va alors s'inventer un passé de déporté. On commence par un avis en quelques petits mots, Thierry Chaise.
C'était une variation intéressante sur la mémoire, la transmission, qui s'étiole un petit peu au fur et à mesure du récit.
Sandra Onana.
Je trouve que c'est un sujet fascinant d'une grande noirceur qui est vraiment traité comme un téléfilm de Noël, cuculapraline.
Voilà, on est bien, je trouve, hein, pour commencer l'émission. On va écouter la bande-annonce d'Eleanor's Great de Scarlett Johansson.
Hi, I'm Eleanor.
I was wondering if I could feature you in my article. I did pick a subject for my journalism project.
Oh, yeah.
Yeah, I'm actually profiling a Holocaust survivor.
So tell me about your mother.
He never talks about my mom. It's like she just, poof, went away.
Tu as aimé l'article à ce point-là?
J'ai adoré. C'est très réfléchi, c'est personnel, c'est émouvant. Je voudrais vous inviter à dîner toutes les deux. À Eleanor. Il y a presque 8 mois maintenant, ma fille a perdu sa maman et moi, ma femme.
Oh, vous m'avez manqué.
Ah, Eleanor's Great, c'est le premier long métrage de Scarlett Johansson avec June Squibb dans le rôle d'Eleanor Morgenstern. Thierry Chaise, le point de départ était quand même prometteur.
C'est prometteur. Vraiment, l'écoute de l'abondance RVF donne raison totalement à ce moment. C'est-à-dire que là, c'est 10 000 Himalayas que j'ai besoin de grimper. C'est vraiment la musique, en effet, d'un bon téléfilm de Noël. Le point de départ est en effet passionnant. Ce personnage dont la meilleure amie meurt et qui donc décide de prendre sa vie pour la raconter pose énormément de questions. En mai dernier était sorti un film qui s'appelait Marco, l'énigme d'une vie, qui racontait l'histoire vraie d'Enric Marco, qui était un syndicaliste espagnol qui, lui, s'était fait passer pour un rescapé des camps et qui était devenu un des principaux leaders en fait, de tout ça avant d'être découvert. Et au moment où il était découvert, il dit « Mais pourquoi vous ne me faites pas malgré tout appel à moi ?» Parce que personne n'en parle mieux que moi, même si je n'ai pas vécu. Et c'est toutes ces questions-là que je trouve intéressant que Scarlett Johansson embrasse à travers une actrice qui est June Squibb, qui, je trouve, le fait magnifiquement, parce que elle n'a pas ce qu'on entend, cette musique dégoulinante, justement, dans son jeu. Et tant qu'on reste là-dessus, tant qu'on reste vraiment sur la première partie, c'est sur ces questions-là, avant que ça ne dérape et qu'il y ait une deuxième partie de film avec une amitié qui se crée, moi, j'y trouve malgré tout un intérêt. Je me dis, ah, c'est passionnant, quelqu'un comme Scarlett Johansson, qui débute, déjà ne se met pas en scène, elle, aborde cette question-là qui doit percuter sans doute quelque chose qui lui est personnel. Et vraiment, moi, je marche totalement au début. En fait, je marche surtout au film que je me fais avant qu'il ne se développe. Et celui-là m'intéresse dans un premier temps.
Est-ce qu'on ressent le malaise? Parce que quand on voit le pitch, effectivement, on se dit ça peut être sur le fil, cette histoire-là.
Non, moi je trouve que c'est une histoire d'usurpation, enfin d'un quiproquo qui devient un mensonge, donc on avait besoin de duplicité. Je trouve que c'est un film qui essaye de faire des bons sentiments avec des mauvais. En fait, il postule, et je trouve même qu'il assène avec une certaine autorité, que c'est un mensonge de bonne foi, qu'il n'y avait pas de mauvaise intention derrière, voire qu'il n'y a pas de victime de ce mensonge. C'est vrai que ça aurait pu être une usurpatrice qui jouit de l'attention que provoque son mensonge, qui va en tirer un profit médiatique, voire financier, chercher des indemnités de victime, un peu comme on se rappelle de ce récit La mythomane du Bataclan. Là, il n'en est pas du tout question. On nous explique qu'elle pêche par excès d'empathie. Et ça, c'est décrété par le film. On ne nous laisse pas la liberté de décider. Et pour rebondir sur ce que disait Thierry, sur quand même le baptême d'une actrice avec son premier film de cinéaste, ce qui est intéressant, je trouve, parce qu'au moment où on le découvre à Cannes, il y avait aussi le premier film de la comédienne Kristen Stewart.
Voilà.
Il y a un peu deux manières, je trouve, quand on est une comédienne, de se présenter au monde avec son premier film réalisatrice. Soit on retrouve dans le film réalisé par l'actrice quelque chose d'elle-même en tant que comédienne. Donc pour Kristen Stewart, assez torturée, arty, branchée, girl power, etc. Et Scarlett Johansson, je trouve qu'elle arrive plutôt avec un film à contre-emploi qui veut dire « je ne suis pas celle que vous croyez ». C'est-à-dire, c'est l'aura glamour de l'actrice n'y est pas. Elle fait un film sur une vieille dame. Elle fait aussi presque un acte de révélation de ses... Le film est un hommage à sa grand-mère juive. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'inscrit dans un moment où on a vu beaucoup de films de juifs américains surgir sur cette question de comment on peut hériter d'une mémoire pareille, soit là il s'agit d'une femme américaine convertie, soit en tant que juif converti, soit en tant que héritier d'une histoire qu'on n'a pas vécue dans notre chair, mais qu'est-ce qu'on fait de cet héritage de traumatisme? Et on l'a vu, il y a eu un film de Jesse Eisenberg sur ce sujet, sur A Real Pain, sur les tours touristiques dans les camps, les tours mémoriels. Il y a eu un film de Jason Schwartzman sur une grand-mère qui faisait sa bat mitzvah, c'est quasiment le même sujet. Il y a eu Lena Dunham aussi. Donc en fait, il se passe un truc sur ce sujet qui est en effet passionnant, sur cette question de la mémoire. Qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire? Et qu'est-ce qu'on fait si ça nous est à la fois, ça nous est arrivé, ça nous est pas arrivé? Mais ça, le film n'entre pas dedans, et je dirais même qu'il dilue la spécificité de ce sujet-là, en renvoyant ça dos à dos avec une histoire de deuil qui est celui d'une jeune journaliste qui se lie d'amitié avec cette grand-mère et qui a perdu sa mère. Donc on nous dit en fait tous les deuils se valent un peu, et en fait on règle ça dans un gros monologue lacrymal, quoi.
Thierry Chaise, c'est le vrai problème du film, c'est-à-dire que comme si on a l'impression que ce sujet n'est pas assez important et qu'on est obligé, au cas où, surtout, on ne soit pas assez ému, de rajouter cette histoire-là. Et moi, j'ai l'impression que dès qu'on est dans cette histoire-là, tout se ralentit, y compris... ça passionne moins même Scarlett Johansson, dès qu'on quitte un peu June Skip. Et vraiment, on l'a entendu dans la bande-annonce, mais le deuil... Et pourquoi créer cette histoire d'amitié? Ça n'apporte rien, ni en tension, ni en émotion. Moi, je suis avec le personnage de June Skip. Je suis d'accord, ça nous donne dès le départ, mais du coup, bah, je suis ce personnage-là, et cette histoire d'amitié, je dis, mais à quoi bon rajouter ça? On serait dans un gros film de studio qui nécessite d'attirer plus grand, mais là, c'est quand même un film à tel point. Et pour rebondir par rapport à Kristen Stewart, c'est que Kristen Stewart, en effet, c'est un film qui lui ressemble, c'est un film qu'elle porte, y compris quand on le voit, dont ceux qui n'ont pas aimé reconnaissent au moins ça, et c'est un film qu'elle a défendu un peu partout. Quand elle était à Cannes, elle vient à Deauville, elle en parle. Scarlett Johansson, c'est un film, on a l'impression qu'elle ne défend moins, c'est-à-dire que nous, moi je vois bien, elle est moins présente, le film présente à Deauville, elle ne vient pas, et vraiment j'ai ce sentiment que chez Kristen Stewart, c'est quelque chose de vital, et Scarlett Johansson, il y a quelque chose de la bonne élève qui a fait une dissertation. Et c'est ce qui me gêne, parce que le sujet de la dissertation était plus important, et vraiment, cette histoire d'amitié gâche tout, gangrène tout, et étouffe tout. Voilà.
On a parlé de l'image de Kristen Stewart, qui est très très travaillée, pour certains trop, mais en tout cas, effectivement, il y a son identité. Là, est-ce qu'on peut parler d'une patte, de quelque chose, d'une recherche, puisque c'est un premier long-métrage, il y a un geste?
Bah, c'est intéressant de poser la question, parce que c'est vrai qu'en termes de mise en scène, moi je me suis dit, bon, c'est vraiment du scénario filmé. Le scénario n'est pas de Scarlett Johansson, donc on peut se dire, il y a ce geste de rendre justice au scénario. Bon, on a entendu le piano sirupeux, etc. Il y a aussi des effets de zoom un peu intempestifs pour, comment dire, marquer les bonnes vannes de la mamie, qui est un peu espiègle, un peu grande gueule. C'est un peu l'équivalent d'un coup de cymbale pour marquer le trait d'humour dans un sketch. C'est le petit zoom au cas où on n'aurait pas compris. Mais sinon, non, moi je trouve, et on peut évidemment se poser la question, si on se pose la question de la bonne élève, il faut chercher l'envers de ça, se dire est-ce que c'est une ruse, une stratégie du film, de verser dans une fausse naïveté, un peu de classicisme américain à la Frank Capra, etc. Moi, j'avoue que j'accorde pas ce crédit au film parce que je trouve que, ne serait-ce que par exemple la ville de New York, il y a quand même ces images d'une mamie de 94 ans jetée seule dans New York. C'est déjà une situation qui devrait donner lieu à des scènes. Là, c'est un New York de Disney. En fait, on mange des bonbons sur un banc, on trouve un taxi facilement. C'est la ville n'existe pas. Je trouve que non, le quelque chose qui serait du geste de mise en scène n'apparaît pas dans ce film.
Thierry Chaise, un dernier mot.
Oui, ouais. Moi j'ai le sentiment qu'elle lorgne dans les mondes comédies du côté presque de Woody Allen, dont elle a été l'actrice et qu'elle a continué à défendre. Et c'est presque ça qui est gênant parce que, justement, il y a une sorte. Quand je dis on essaye d'appliquer quelque chose, et j'ai ce sentiment-là, et moi, autant j'ai envie de voir le deuxième long métrage de Kristen Stewart tout de suite. Autant si tu fais Johansson, je peux attendre un peu, ça ne me viendra pas. Voilà.
Eleanor's Great de Scarlett Johansson avec June, Squibb dans le rôle d'Eleanor Morgenstein. Et on l'a dit, le scénario n'est effectivement pas de Scarlett Johansson, il est de Tori Kamen. Voilà qui nous emmène à votre coup de cœur, Thierry Chaise, pour le film d'Alice Drouard, Des preuves d'amour.
Voilà, qu'on a découvert à la Semaine de la critique à Cannes, qui était une très bonne édition cette année, je trouve. Kika, qui est sortie la semaine dernière. Fantôme utile, qui avait eu le Grand Prix, une histoire de réincarnation d'une femme dans un aspirateur. Des choses très diverses.
Une Thaïlandais extraordinaire.
Voilà, extraordinaire. Là, la réalisatrice prolonge, en quelque sorte, le court-métrage qu'elle avait fait, qui s'appelle L'attente, et le film parle de l'après-mariage pour tous, lorsque deux femmes veulent avoir un enfant, il y a celle qui accouche et puis il y a l'autre. Et l'autre, eh bien, pour devenir parent, doit passer à travers toute une série d'obstacles, c'est vraiment le parcours de la combattante, pour arriver à avoir ce positionnement, doit avoir des lettres certifiant que oui, elle sera bien une bonne mère, donc pas uniquement des amis autour, mais aussi de sa propre mère. Ça pourrait être un film à sujet, parce qu'évidemment, on sent bien qu'Alice Drouard raconte quelque chose qui lui plaît. Moi, j'ai trouvé que c'était pas une comédie, pas au moins absolument incroyable, sur quelque chose qui est quand même assez tragique, peuplé de personnages passionnants. Cette mère, notamment, qui est tout sauf maternelle, et qui, évidemment, quand sa fille lui demande « fais-moi une lettre de recommandation », c'est absolument impossible.
Elle n'est pas compétente.
Elle n'est pas compétente, incompétente. C'est porté par deux actrices qui sont absolument magnifiques et qui vraiment jouent ensemble, qui sont Ella Rumpf et Monia Chokri. Et on est totalement... C'est-à-dire que les hauts et les bas qu'elles vivent, on les ressent, quel que soit le sexe de la personne qui regarde comme moi. Je suis un homme, et là, je suis totalement avec elle. Je souris, j'ai peur pour elle, je suis ému par elle, et c'est un geste, pour le coup, pour un premier film, que j'ai trouvé d'une limpidité absolument incroyable, tout en n'étant jamais là où on l'attend, à tout moment, quel que soit le personnage. C'est vraiment un très très beau premier film pour moi.
Sandra Onana, je me permets de vous passer la parole sur la comédienne, puisque vous m'aviez dit tout à l'heure que vous avez trouvé qu'elle était excellente.
Ah oui, Ella Rumpf, donc, qui avait déjà eu un César de la meilleure révélation pour Le théorème de Marguerite, qu'on avait découverte en grande sœur dans le film Grave, le premier film de Julia Ducournau, et qui est en fait suffisamment discrète pour comme ça elle surgisse dans des films, et on perd un peu sa trace. En fait, elle est franco-suissesse, elle est suisse, elle joue, je pense, dans d'autres productions qui n'arrivent pas jusqu'à chez nous, mais effectivement, moi j'ai trouvé que le film tourne plutôt autour d'elle, principalement, de ses doutes. C'est un peu son parcours de doute et d'angoisse en tant que la mère qui n'enfante pas, qui se dit quelle va être ma place en tant que mère. Et effectivement, je trouve qu'elle a une sorte de présence sombre qui, même physiquement, on dirait une sorte de sœur de Clotilde M, qui jouait l'équivalent du rôle dans le court-métrage, en fait, L'attente, dont est tiré le film. Donc il y a une cohérence et presque un truc de jumélité très beau. Voilà.
Donc c'est Des preuves d'amour d'Alice Drouard en salle aujourd'hui, et je précise d'ailleurs que c'est un film France Culture.